Michel Favre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur financier de Forestia. Nous sommes avec vous à Lyon, au Dau Forum, où vous rencontrez des investisseurs. 2016 a été une année active pour vous, à la fois en termes de cession et en termes d'activité. Ça a été, on peut dire, important. Qu'est-ce que vous dites sur ce bilan de l'année 2016?
Je crois que 2016 a montré qu'on a plus, je dirais, réalisé encore que tout ce qu'on avait prévu. Nous sommes au-delà de toutes les guidances et surtout les guidances que nous avions fixées lors de l'Investor Day de 2013. Nous avions dit 2013-2016, c'est le moment où Forestia va se retourner, augmenter sa rentabilité, rattraper les concurrents, et tous les objectifs ont été réalisés. En plus, nous avons effectivement finalisé la cession de notre activité extérieure avec Plasticomium, ce qui est derrière nous. Donc la flexibilité financière de Forestia est réelle. Nous avons quasiment plus de dettes, on a un tout petit peu de dettes, mais quasiment plus de dettes. Nous avons une très forte amélioration de notre EBITDA. Donc maintenant, on va s'atteler à 2017-2018. Nous avons affirmé toutes nos guidances et nos ambitions lors de la journée investisseur d'avril 2016. Donc j'ai envie de dire, tout va bien pour Forestia.
Alors, le marché, votre marché, hein, vous êtes un équipementier automobile. C'est vrai que le marché automobile, cette année, s'est bien porté. On est peut-être en droit de se poser la question, est-ce que ça va continuer? Quelle est un peu la vision que vous avez du marché automobile aujourd'hui, mondial, bien sûr?
Alors, on a une vision prudente, hein, puisque par principe, c'est des années électorales, on ne sait jamais ce que ça va donner. On a un exemple, on a vu que finalement, l'élection de Donald Trump a redopé le business. Hein, donc aujourd'hui, on peut être plus positif. Probablement plus positif que nous étions sur le marché américain. On disait une toute petite croissance de la production. L'Europe continue ses électorales, on va dire une petite croissance aussi. Je parle de 1 à 2%, hein, sans plus. La Chine, on est prudent parce que ça a été tellement bon en 2016, dopé aussi par des avantages fiscaux, que probablement il y aura une petite contre-réaction début 2017. Mais là aussi une croissance. Globalement, le marché mondial, comme toujours, va croître. Allez, on va dire 2%.
Alors, vous parliez de Donald Trump. On voit qu'il a fait pression sur les constructeurs américains et on a vu des constructeurs américains commencer peut-être à réagir, à non pas relocaliser, mais peut-être au lieu d'aller au Mexique, où il y a une grosse production automobile avec les équipementiers sur certains produits, être aux États-Unis. Est-ce que ça peut un peu perturber le marché?
Non, c'est des décisions importantes, hein, bien évidemment. Quand il y avait un projet de mettre un châssis Ford dans une usine au nord du Mexique et finalement ça a été fait en Amérique du Nord, ça a des impacts, y compris pour nous, hein, puisque nous devions accompagner Ford, on le fera en Amérique du Nord, enfin on le fera aux États-Unis. Bon, maintenant, ça ne sera pas des grands mouvements. Le Mexique est un pays automobile important, c'est un pays d'équipement automobile important et ça continuera à l'être. Et nous aurons une forte croissance au Mexique.
Ça, c'est la vision, on dirait, de l'ensemble des équipementiers, quelque part, qui suivent les constructeurs. On avait peut-être des inquiétudes, il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est trop implanté pour que ça bascule de l'autre côté.
C'est trop implanté et trop lié. Et j'ai envie de dire que le Mexique est quand même très lié aux États-Unis. Donald Trump est quelqu'un de très pragmatique. En revanche, c'est normal qu'ils défendent les intérêts des États-Unis.
Du côté de vos activités, on rappelle, hein, donc il y a à la fois la partie intérieure, la partie siège, la partie contrôle des émissions. Sur toutes ces activités-là, il y a des innovations technologiques de plus en plus?
Alors, il y a une très forte évolution sur l'intérieur. Hein, on sent que la connectivité, notamment, hein, l'ergonomie, l'interactivité sur les écrans, par exemple, où on va avoir de plus en plus d'écrans intelligents, l'intégration des écrans avec la décoration, tout ceci fait que la partie intérieure va beaucoup changer. Et que nous sommes un acteur fondamental, et j'ai envie de dire unique, puisque nous sommes les seuls à allier à la fois la planche de bord, tous les modules, y compris la console, et les sièges. Donc nous avons, et nous sommes stratégiques pour les clients. Sur la partie échappement, il est évident que les stations évoluant, là aussi, nous allons prendre un gros avantage. Et là, pas seulement sur l'automobile, parce que les poids lourds et puis tous les véhicules spéciaux vont aussi croître énormément en termes d'échappement, en termes de dépollution. Les sièges, je vois pour l'instant moins d'évolution technologique. Ce sera plus la continuité dans la motorisation. Et puis aussi tout ce qui peut être lié à la santé. Vous avez probablement vu qu'à travers des capteurs, je dirais, sur la pression sanguine, on peut donner beaucoup d'alertes, voir aussi des informations dans le cas d'un accident. Donc ça, c'est quelque chose qui va se développer et se standardiser.
En termes de marché, on voit, on pourrait dire pour tous les constructeurs, cette gamme de SUV qui effectivement s'installe. Il y a ceux qui étaient pionniers, puis ceux qui y viennent. Ça, pour vous, c'est un marché porteur?
C'est un marché porteur. Le paradoxe, c'est que les SUV sont dans les grandes villes. On sait que c'est très utile dans les grandes villes. C'est plus un côté, je dirais, je dirais, de facilité, de confort, de plaisir de conduire. C'est important quand on parle de véhicule autonome. Le SUV, c'est un plaisir de conduire, hein, j'en ai un, donc je peux en parler. Bon, et je pense que ça va continuer parce que c'est vraiment, je dirais, le plaisir d'avoir une voiture, hein, et le confort de la voiture.
On parlait tout à l'heure de la situation financière. Est-ce que du coup ça vous donne des marges de manœuvre pour réaliser des acquisitions? Est-ce que vous êtes en réflexion dans ce domaine?
Alors, nous avons réalisé deux petites acquisitions. Vous avez vu l'acquisition de Parrot Automotive, alors qui va se faire en plusieurs temps, qui est quelque chose de très important parce qu'il y a des experts et des brevets uniques chez Parrot. Il y a une connaissance, une expertise sur l'infotainment qui vont venir compléter celle de Faurecia. Donc, pour nous, c'est une opportunité de développer et de prendre pied dans ce segment de business. Sur une autre acquisition, alors ça peut être un paradoxe, c'est lié au bus, à la dépollution, à le stockage de l'ammoniac dans des cartouches. Là aussi, il y a des opportunités, par exemple, d'application pour les bateaux. Vous voyez qu'on va très loin. Donc, on va continuer ces acquisitions parce que, clairement, la vente de l'extérieur, c'était donner à Faurecia une grande flexibilité financière pour enrichir son portefeuille d'activité.
Pour vous, l'exercice 2017 se présente bien?
Il démarre. Alors, 2016 a été une très bonne année. Le dernier trimestre a été excellent. Je crois que les chiffres sortent petit à petit, hein, sur les immatriculations et la production. On démarre sur un même momentum. Je pense qu'on peut dire que, sans dire que tous les as sont alignés, ils sont quand même pas mal.
Donc les marchés continuent à leur progression.
Tout à fait. Et puis nous, on a été clairs sur nos guidance. Et je pense que là, on va revoir une belle croissance sur 2016, 2017, pardon.
On aura l'occasion d'en reparler. Merci Michel Favre et on vous souhaite une excellente année de 2017, tous nos vœux.
Merci beaucoup. Et tous mes vœux aussi.